Alors, quand je lis dans les évangiles la vie de Jésus, je découvre qu'il ne cherchait jamais à, qu'il ne cherchait pas à offenser les gens, mais qu'il pouvait à l'occasion lui arriver d'offenser quelqu'un. Et la raison pour laquelle il ne cherchait pas à offenser les gens, mais qu'il pouvait à l'occasion lui arriver d'en offenser quelques-uns, c'est parce qu'il était parfaitement équilibré dans son enseignement. Il y a deux choses qui faisaient en sorte que Jésus était parfaitement équilibré dans ce qu'il enseignait et qui permettaient et qui permettent non seulement à l'Église, mais aussi à tout chrétien de l'être également. Et ces deux choses sont la grâce et la vérité. Au verset, on a lu au verset 14, « Celui qui est la parole est devenu un homme et a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. » On pourrait aussi dire « rempli de grâce et rempli de vérité. » Je vous invite à tourner, pour ceux qui ont leur Bible, dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Et pour ceux et celles qui ne sont pas nécessairement familiers avec la Bible, permettez-moi de vous dire, pendant que vous tournez, que celui qui a écrit cet évangile s'appelle Jean. Il est l'un des 12 disciples qui a vécu 3 années avec Jésus. Nous savons que Jésus avait choisi 12 disciples et qu'il les aimait tous, mais qu'il y avait quand même 3 disciples qui avaient un statut particulier au sein du groupe. Il n'est pas difficile de constater que la relation que Jésus avait avec Pierre, Jean et Jacques était différente de celle qu'il avait avec les autres membres du groupe. Il leur a permis d'avoir des choses que les 9 autres disciples n'ont pas vues. Et il leur a permis d'entendre des choses que les 9 autres disciples n'ont pas entendues. Je pense à la transfiguration et je pense à autre chose que Jésus leur a permis d'entendre. Et au verset 14 du chapitre 1, eh bien, comme je viens de le lire, Jean nous dit quelque chose qu'il a vu en Jésus, qui nous révèle pourquoi celui-ci était quelqu'un d'aussi captivant, d'aussi fascinant, d'aussi stimulant. Et il écrit en parlant de Jésus, « Celui qui est la parole est devenu un homme et a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit de son Père. » Et dans la première partie de ce verset, Jean nous parle de la naissance de Jésus. Il parle de cette doctrine que nous appelons l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu a quitté le ciel, qu'il est venu sur la terre, qu'il a revêtu un corps humain et qu'il est devenu l'un de nous. Dans la deuxième partie du verset, Jean a écrit qu'il a vu la gloire de Jésus, c'est-à-dire qu'il a vu l'impact que Jésus a eu auprès des gens par sa présence, par sa puissance, et à travers les paroles qu'il a prononcées jusqu'au moment où il est revenu de la mort à la vie et qu'il est monté au ciel. Jean va ensuite décrire quelque chose qu'il a vu pendant 3 ans à propos de Jésus, qui le rendait si unique, si différent et si captivant. À un tel point que lorsque vous découvrez ce que c'est, vous vous dites en vous-même, voilà ce qui faisait de lui quelqu'un de si unique, de si différent, de si captivant, au point où les gens provenant de tout horizon, les riches et les pauvres, les bien nantis et les moins bien nantis, les acceptés, les rejetés, qui n'avaient jamais entendu parler de lui, cherchaient à le rencontrer, cherchaient à le toucher, à l'entendre, à écouter, et pour certains même à renoncer à leur propre vie. Jean nous dit au verset 14 pourquoi il avait autant de remue-ménage autour de Jésus. Il nous dit qu'il était plein de grâce et de vérité. Voilà ce qui faisait de Jésus quelqu'un de parfaitement équilibré dans son message. Voilà ce qui faisait de Jésus quelqu'un intéressant à entendre parler. Frères et sœurs, si vous êtes plein de grâce dans votre cœur ou si votre cœur est rempli de la grâce, vous serez plein de grâce et de vérité. Si l'Église est pleine de Jésus, elle sera pleine de grâce et de vérité. Le problème, c'est que pour Jésus, tout cela est venu naturellement en lui. Il était naturellement plein de grâce et de vérité. Il n'avait pas à se demander de quel côté il devait pencher. C'était naturel pour lui de manifester la grâce et de marcher dans la vérité. Notre problème, c'est que nous ne sommes pas comme lui. En tout cas, nous ne lui ressemblons pas encore comme Dieu voudrait que nous lui ressemblions. Notre problème, c'est que nous ne sommes pas comme lui. Nous avons tendance à pencher d'un côté comme de l'autre. Soit que nous avons tendance à mettre plus l'accent sur la grâce, soit que nous avons plus tendance à mettre l'accent sur la vérité. Permettez-moi de vous donner un exemple, l'exemple de mes parents. Bon, je vous ai dit que j'étais quelqu'un de pas nécessairement calme quand j'étais jeune, mais quand je me souviens une fois, je dois quand même rendre grâce à Dieu qu'il ait permis à des frères, j'étais enseigné par des frères au primaire, donc qu'il ait permis à des frères de pouvoir garder la main mise sur moi après l'école et d'en garder des contacts avec ma mère pour essayer de gérer, pour éviter que je sombre dans la délinquance. Et moi, j'étais le frère avec ma mère, il s'était encoquiné pour dire, écoutez, il faut le laisser dans le hockey, le temps qu'ils jouent au hockey, eh bien, ils ne pensent pas à faire du mal. Et moi, on joue au hockey au Québec, on dit que souvent les enfants viennent au monde avec des patins dans les pieds. C'est une caricature, mais c'est à peu près ça, des patins à quatre lames. Et moi, je joue au hockey 6 jours par semaine. Et j'avais fait une bêtise à la maison, je ne me souviens pas laquelle, mais mon père, mon père qui représentait la vérité, la loi, m'a donné une sentence, il m'a dit, tu vas être puni pour ça, et tu vas être privé pendant 2 semaines du hockey. Aïe, 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 quel drame! Et le soir même, j'avais un match. Et là, j'ai pleuré. Michel, qui a trouvé qui? Madame Lagrasse, ma mère. Je n'aurais jamais osé aller trouver mon père. Il représentait la loi, il m'aurait dit, écoute, la punition, c'est ça, tu vas commencer et terminer ta punition. Et là, je pleurais, je me tenais après la robe de ma mère, je dis, maman, je ne peux pas manquer ce match-là, maman, c'est pas possible, 2 semaines, je vais être déclassé, ainsi de suite. Et ma mère, elle ne m'a pas montré sa peine, mais elle avait de la compassion, et elle a dit, bien, écoute, et là, je vous dis ça rapidement, parce que, bon, je ne peux pas vous tenir pendant 2 heures sur ce que je lui ai dit, mais j'ai pleuré, j'ai insisté pendant au moins 1 heure, et ma mère elle m'en donnait toujours un petit peu plus. Elle s'en allait toujours vers la chambre où mon père dormait. Et elle m'a dit, « Écoute, je vais aller le trouver, je ne te promets rien. Je vais essayer de faire en sorte qu'il puisse, changer ta punition. » Alors, ils sont passés une demi-heure, 3/4 d'heure dans la chambre. Elle est ressortie en allant me trouver, elle me disait, en gardant son sérieux. Alors, j'ai dit, « Puis, maman. » Bon. Il m'a dit que ça allait pour cette fois-ci. Mais ne recommence jamais la même bêtise. La grâce. Et quand on pêche, on ne va pas voir la loi, on essaie d'aller trouver la grâce. Et aller uniquement vers la grâce, ça ne nous empêchera pas après de commettre le même péché. Et c'est pour ça que Jésus était bien équilibré. Il prêchait la grâce, mais il prêchait aussi la vérité. C'est ce qui transformait la vie des gens. Comme je vous ai dit, lorsque j'avais un problème, j'allais toujours voir Madame la Grâce et non pas Monsieur la Vérité. Et frères et sœurs, nous agissons tous de cette manière. En venant au monde, nous aurons tendance à être soit un Monsieur ou une Madame la Vérité, en fonction de ce qu'on vit dans notre famille, ou nous aurons tendance à être un Monsieur ou une Madame la Grâce. C'est toujours comme ça que ça marche. Quand nous sommes pris sur le fait, nous espérons que la personne usera de grâce à notre égard. Et lorsque nous prenons les autres en défaut, nous sommes portés à mettre l'emphase sur la vérité. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que moi, j'ai vu mon père qui représentait la loi et ma mère la grâce, mais exception faite, peut-être pour les gens qui sont dans l'Église, quand vous devenez des grands-parents, celui qui exerçait la loi va exercer la grâce. Et celle qui exerçait la grâce, la maman qui exerçait la grâce, en tant que grand-maman, elle va exercer la loi. On dirait qu'elle va vouloir protéger davantage son petit-fils ou ses petits-enfants, qu'elle le faisait avec ses propres enfants qui étaient toujours autour d'elle, quand elle les éduquait. Moi, en tout cas, c'est ce qui est vraiment arrivé. Hein. Moi, je ne représentais pas la loi chez moi. Moi, je représentais la grâce. Et pourquoi? Parce que, je ne sais pas, c'est naturel. Peut-être c'est différent pour ceux qui sont nés dans l'Église. Encore une fois, je le dis, pour ceux qui sont nés dans le monde, c'est souvent comme ça que ça se passe, à quelques exceptions près. Maintenant, avec Jésus, la grâce et la vérité sont toujours liées ensemble comme les 5 doigts d'une main. L'une n'allait pas sans l'autre. Il exerçait toujours la grâce et la vérité de façon parfaitement équilibrée. Il n'a jamais utilisé la grâce aux dépens de la vérité, et il n'a jamais utilisé la vérité aux dépens de la grâce. Il était toujours plein de grâce et de vérité. Je voudrais maintenant partager avec vous, dans un premier temps, la raison pour laquelle une Église doit chercher à trouver cet équilibre entre la grâce et la vérité. Dans un deuxième temps, la raison pour laquelle j'aimerais avoir cet équilibre entre la grâce et la vérité dans ma propre vie. Et dans un troisième temps, pourquoi ce monde dans lequel nous vivons a besoin de voir et d'entendre cet équilibre qui existe entre la grâce et la vérité dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Pour être en mesure, premièrement, de manifester la grâce dans l'Église et dans le monde, nous avons besoin de compassion. Jésus était ému de compassion devant les foules qui marchaient sans berger. Est-ce que nous sommes émus de compassion pour les gens à l'extérieur qui marchent, qui sont perdus, qui sont sans berger, qui sont comme des poules sans tête et qui s'en vont à droite et à gauche? Alors, frères et sœurs, je ne veux pas insulter personne, mais nous ne sommes pas encore remplis de grâce et de vérité. Pour être en mesure de manifester la grâce dans l'Église et dans le monde, nous avons besoin d'avoir de la compassion pour ceux qui sont dans l'Église et pour ceux qui vivent dans le monde. Remarquez dans quel ordre Jean va dire les choses au verset 14. Il ne dit pas « Jésus était rempli de vérité et de grâce ». Il dit « Jésus était rempli de grâce et de vérité ». Et on sait très bien, par l'expérience de nos vies, que dans la parole, les mots sont toujours placés au bon endroit. Il n'y a jamais une erreur, il n'y a jamais une correction à faire. Jean dit que Jésus était plein de grâce et de vérité. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence si Jean parle d'abord de la grâce. Vous vous dites peut-être, pasteur, quelle est la différence qui existe? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça change que Jean parle de la grâce ou de la vérité en premier ou vice-versa? Jean savait très bien ce qu'il faisait. Il savait qu'il devait d'abord parler de la grâce parce qu'il s'adressait aux Juifs. Si vous aviez été Juif à l'époque de Jésus, vous n'aviez pas eu besoin de leur parler de la vérité parce qu'en tant que Juif, ils vivaient en fonction de la vérité. Ils possédaient la vérité en eux parce que tout ce qu'ils avaient entendu parler depuis qu'ils existaient, c'était de la vérité. En fait, si vous étiez un bon Juif, vous deviez mémoriser les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Si vous étiez un pharisien, vous deviez mémoriser les 5... vous deviez connaître, pour un bon petit juif, vous deviez connaître les 5 premiers livres du Nouveau Testament. Et si vous étiez un pharisien, vous deviez mémoriser les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et lorsque vous aviez mémorisé tous ces livres, vous réalisiez que tout était une question de vérité parce que globalement, l'accent dans l'Ancien Testament est mis sur la vérité. Chers amis, lorsque vous pensez à l'Ancien Testament, à quoi pensez-vous? Eh bien, vous pensez tout de suite au commandement, non? Tu feras, tu feras pas, tu feras, tu feras pas. Vous pensez à certaines lois. Vous pouvez manger ceci, mais vous ne pouvez pas manger cela. Vous pouvez porter ceci, mais vous ne pouvez pas porter cela. Vous pensez aux règles établies. Vous allez construire un temple, mais vous allez construire en fonction du cahier de charges que j'ai donné à Moïse. Vous devez offrir un animal en sacrifice et vous allez devoir le faire de la façon dont je vous ai donné. Les Juifs apprenaient à faire la différence entre ce qu'ils pouvaient faire et ne pas faire. Ils connaissaient la vérité depuis leur naissance et ça jusqu'à leur mort. Ils entendaient la vérité le matin, l'après-midi et le soir au souper parce que la religion juive était centrée sur la vérité. Vous vous dites peut-être, voilà pourquoi moi j'aime pas l'Ancien Testament. Parce qu'on y trouve pas la grâce. C'est pas tout à fait exact. Vous trouvez aussi la grâce dans l'Ancien Testament. Et heureusement que Dieu dans l'Ancien Testament a exercé sa grâce. Il suffit de se rappeler de cette histoire dans Genèse chapitre 6, où peu de temps après avoir créé les êtres humains, Dieu vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants. Tout ce que Dieu voyait, c'est que les hommes suivaient les penchants de leur cœur, qui les portaient constamment à vivre dans le péché. Il est écrit en verset 8 que Dieu fut attristé et regretta d'avoir créé les êtres humains sur la terre. Il se dit, il faut que je balaye de la terre tout ce que j'ai créé. Et il l'aurait fait. Si cela n'avait pas été de ce verset, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. 13 ici, frères et sœurs, si Noé ne trouve pas grâce aux yeux de l'Éternel, il n'y a pas d'église de l'un. Vous n'êtes pas assis ici, moi je ne suis pas assis là, il n'y a personne qui existe aujourd'hui. Autrement dit, dans sa grâce, Dieu a choisi de ne pas détruire le monde et tout ce qui existait sur la terre. La vérité, c'est que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est à cause de la grâce de Dieu, et que la grâce que Dieu a manifestée dans l'Ancien Testament auprès de Noé. Toutefois, il faut quand même dire que l'Ancien Testament ne cherchait pas du tout à mettre l'accent sur la grâce, mais plutôt sur la loi qui était synonyme de vérité. Voilà pourquoi Jean va souligner au verset 17 que Dieu nous a donné la loi par Moïse. Dieu nous a donné la loi par Moïse. Dieu nous a fait connaître finalement son caractère moral à travers l'Ancien Testament. Et ce, à travers Moïse. Tous les Juifs connaissaient la loi. Tout ce qu'ils avaient entendu de la loi, c'était que la loi était la vérité et rien que la vérité. Puis Jésus arrive et la lumière de la grâce va tellement illuminer sa vie que tous et chacun pouvaient le voir. Voilà pourquoi les gens qui étaient pourtant tellement différents de Jésus l'aimaient. Voilà pourquoi Jésus fréquentait les pécheurs et que les pécheurs le fréquentaient. Voilà pourquoi Jésus attirait les non-croyants et les pires individus comme un aimant attire le fer. Voilà pourquoi j'aspire à être plein de grâce. Chers amis, la plupart des gens qui vivent dans ce monde ne veulent pas avoir de contact avec la grande majorité de ceux qui se disent chrétiens. Savez-vous pourquoi? Parce que nous mettons trop souvent l'accent sur la vérité et pas assez sur la grâce. Ils se sentent jugés, condamnés, alors qu'on a oublié de leur parler de la grâce de Dieu. Mais quand Jésus est apparu sur la terre, plein de grâce et de vérité, il a transformé le visage sévère de la loi en visage éclatant de la grâce. C'est pourquoi quand les gens rencontraient Jésus, ils disaient « Jamais personne n'a parlé comme cet homme ». Lorsque vous lisez les quatre évangiles, il y avait quelque chose qui se passait à chaque fois que quelqu'un rencontrait Jésus. Il se passait quelque chose de spécial à chaque fois que Jésus rencontrait un pécheur, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, un voleur, un fraudeur, une prostituée, ou lorsque le pire des criminels rencontrait Jésus. Sans que personne ne dise un seul mot, ils se disaient en eux-mêmes quelque chose qui pouvait ressembler à ceci. « Cet homme, il m'aime. Cet homme se préoccupe de moi. Cet homme, il veut m'aider. Cet homme désire qu'il est le meilleur pour moi. Et je suis certain que je peux réellement avoir une relation avec cet homme. » Si dans un premier temps, pour être en mesure de manifester la grâce dans l'Église et dans le monde, nous avons besoin d'avoir de la compassion, dans le deuxième temps, nous avons besoin d'être convaincus que ce que nous lisons dans la parole de Dieu est la vérité. Si nous ne sommes pas convaincus que ce que nous lisons dans la parole est la vérité, eh bien, nous n'aurons pas l'assurance pour en parler aux gens. Et nous-mêmes, nous serons ébranlés, ne sachant pas quoi dire, parce que nous ne sommes pas convaincus que c'est la vérité. Moi, on peut dire n'importe quoi autour de moi, n'importe quoi, il n'y a rien pour m'ébranler. Ça, pour moi, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre sacré parmi tant d'autres. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle fait autorité, en tout cas, elle fait autorité dans ma vie. C'est ce qu'elle veut faire. Et c'est ce qu'elle veut faire dans votre vie. Vous savez pourquoi souvent des chrétiens qui tombent toujours dans le même péché? Parce qu'ils ne sont pas convaincus que ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Et qu'ils ne la lisent pas assez souvent pour voir que Dieu déteste ce qu'ils font. Mais que Dieu aimerait qu'ils puissent confesser leurs péchés, se détourner de leur mauvaise voie et entrer finalement dans cette relation que Dieu aspire à travers la personne de Jésus-Christ pour chacun de leurs enfants. Nous avons besoin d'être convaincus, deuxièmement, que ce que nous lisons dans la parole de Dieu est la vérité. Je vais lire encore une fois le verset 14. Jésus était plein de grâce et de vérité. Lorsque Jésus s'adressait aux gens, il ne leur faisait pas voir seulement un côté de la médaille. Il leur parlait autant de la grâce que de la vérité. Il ne mettait pas tout l'accent sur la grâce en ignorant complètement la vérité, et il ne mettait pas tout l'accent sur la vérité en ignorant complètement la grâce. Il trouvait toujours un moyen de trouver un équilibre pour parler de la grâce et de la vérité. Peut-être que parmi vous, vous savez à quoi ressemble, savent à quoi ressemble le symbole des États-Unis, qui représente la grandeur de l'Amérique. Je vais demander à Jean-François de la mettre sur l'afficher sur l'écran. Bon, je ne suis pas un fan des Américains, je ne veux pas aller vivre aux États-Unis non plus, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Bon, ouais. En fait, on pense que c'est un aigle blanc, mais ce n'est pas un aigle, en fait. Le symbole national, c'est un pygargue. On appelle ça un pygargue, ça ressemble à un aigle, mais on appelle ça un pygargue à tête blanche, aux ailes déployées. Et regardez ce qu'il tient dans ses deux mains. D'un côté, il tient un rameau et de l'autre, il tient 13 flèches. Les 13 flèches, ça représente les anciennes colonies avant la guerre de sécession. Ça représente la guerre. La main où il tient le rameau, ça représente la paix, un rameau d'olivier. Pourquoi a-t-il mis un rameau dans une serre et 13 flèches dans l'autre? Simplement pour rappeler à toutes les nations du monde ce principe. Nous venons vers vous en portant deux choses dans chacune de nos mains. Le rameau qui symbolise la paix. Et si vous voulez la paix, nous sommes en paix. Nous sommes prêts à avoir la paix. Mais si vous voulez la guerre, les 13 flèches que nous tenons dans notre main signifient que nous sommes aussi prêts pour la guerre. Frères et sœurs, chaque fois que Jésus rencontrait quelqu'un, il laissait toujours sous-entendre qu'il tenait deux choses dans ses mains. Dans une main, c'était la grâce, et dans l'autre, c'était la vérité. Pourquoi est-ce important de comprendre cela? Il y a une caricature de Jésus aujourd'hui dans notre culture qui ne correspond pas du tout au Jésus du Nouveau Testament. Je l'appelle le Jésus massepain. Vous lui donnez la forme que vous voulez, ainsi tout va bien. C'est le Jésus qui aime tout le monde et qui tolère tout ce que les gens font. C'est le Jésus qui dit « Je me fiche de la façon dont vous vivez ». C'est le Jésus qui dit « Je me fiche de la façon dont vous vous conduisez ». C'est le Jésus qui dit « Je me fiche qui vous épousez ». C'est le Jésus qui dit « Je me fiche de quel endroit vous fréquentez ». Je me fiche de ce que vous pouvez regarder. Je me fiche de la manière dont vous vivez. Tout est OK pour moi si tout est OK pour vous. Ce n'est pas seulement le modèle de Jésus qui est véhiculé dans notre culture aujourd'hui. Mais frères et sœurs, c'est le modèle de Jésus qui est prêché dans beaucoup de nos églises aujourd'hui. La place la plus difficile pour parler de l'enfer et du péché, ce n'est pas dans le monde, c'est dans l'Église aujourd'hui. On vient pour se sentir bien à l'Église. Vous voulez me trouver ça dans la parole qu'on fréquente l'Église pour se sentir bien? C'est nulle part, ça. Ce n'est pas seulement le Jésus qui est véhiculé, je le répète, dans notre culture aujourd'hui, mais c'est le modèle de Jésus qui est prêché dans beaucoup de nos églises aujourd'hui et malheureusement qui sont extrêmement florissantes. Malheureusement. Je ne nommerai pas le prédicateur, mais aux États-Unis, je ne le prendrai pas en Belgique, il y a un prédicateur qui ne prêche que la pensée positive, il y a 35 000 personnes dans son bâtiment. Quand vous écoutez son message, mais il n'y a rien du tout de l'Évangile. Mais rien du tout. Jésus n'est jamais prononcé. La sanctification n'est jamais annoncée. Si vous êtes beau et vous êtes gentil et Dieu veut que vous soyez comme ça. Nous sommes tous beaux, nous sommes tous gentils, tout va bien. Tout est OK pour lui si tout est OK pour nous. C'est le Jésus qui correspond parfaitement à la vérité théologique numéro un de notre culture. Vous savez quelle est la vérité théologique numéro un de notre culture? Il n'est pas bien de dire à quelqu'un qu'il se trompe. Si vous dites à quelqu'un qu'il a tort, vous le jugez et vous avez tort. Pourtant, Paul dit bien qu'on a le droit de juger. L'homme spirituel juge de tout. Il n'est pas lui-même jugé par personne. On juge à partir de quoi? Pas à partir de mon opinion, ce que je pense, parce que mon opinion vaut la vôtre, mais celle de Dieu. Dieu ne se trompe pas. Je peux reprendre quelqu'un à partir de la parole, mais pas sur la base de ce que moi je pense, sur la base de ce que Dieu dit. C'est le seul moment, c'est le seul exemple où j'ai le droit de juger quelqu'un. Et je dois le faire avec grâce. Je juge non pas dans le but d'enfoncer mon frère, mais dans le but de le retirer de l'enfer dans lequel il se trouve, puisqu'il baigne dans le péché. Helmut Richard Niebuhr, professeur à la faculté de théologie de Yale, a dit ceci, « Nous avons créé aujourd'hui ce fantasme spirituel en laissant croire aux chrétiens et aux gens de ce monde que Dieu tolère tout, que les gens peuvent entrer dans son royaume sans rendre des comptes pour ce qu'ils ont fait dans leur vie, en mettant de côté l'importance de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Un salut sans la croix. » C'est pas beau, c'est un peu beaucoup et c'est ce à quoi certaines églises aujourd'hui croient. Parce que dans beaucoup d'églises, l'accent est mis uniquement sur la grâce et que la vérité est mise de côté. C'est là le message qu'on entend lorsque l'Église cherche à avoir des amis plutôt que des convertis. Frères et sœurs, Jésus était plein de grâce et de vérité. Nous voulons annoncer la grâce et nous voulons partager en même temps la vérité. Il est important que quiconque entre dans ce lieu le dimanche matin puisse savoir que la grâce est disponible pour ceux qui veulent bien la recevoir. Et notre objectif numéro un, c'est de les inviter à recevoir cette grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Cependant, nous n'offrirons pas la grâce en omettant de parler de la vérité. Nous voulons partager la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui enseigne à renoncer à une vie mauvaise et aux désirs terrestres, pour mener dans le monde une vie raisonnable et juste et fidèle à Dieu. Mais nous voulons aussi dire la vérité et leur dire que Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ, que Dieu leur a offert un sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés pour tous ceux qui croient en lui. La grâce enseigne qu'il y a une seule voie qui mène à Dieu pour tous. La vérité dit qu'il n'y a qu'un seul moyen de parvenir à Dieu. La grâce dit le pardon des péchés est possible pour tous. La vérité dit la repentance et l'abandon du péché sont nécessaires pour recevoir le pardon. La grâce dit « je t'aime comme tu es ». La vérité dit « je t'aime trop pour te laisser comme tu es ». La grâce dit « j'aime les pécheurs ». La vérité dit « je déteste le péché ». La grâce dit « n'importe qui peut venir à Dieu ». La vérité dit « tout le monde doit venir à Dieu en passant par Jésus-Christ. La grâce dit « Dieu est amour ». La vérité dit « Dieu est saint ». La grâce dit « le paradis existe et vous pouvez y aller ». La vérité dit « l'enfer existe et vous pouvez aussi y aller ». La grâce dit « il y a un salut pour tous ceux qui le désirent ». La vérité dit « il y a un jugement pour tous ceux qui rejettent ce salut ». La grâce dit « vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi ». La vérité dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Si dans un premier temps, pour être en mesure de manifester la grâce dans l'Église et dans le monde, nous avons besoin d'avoir de la compassion, et si dans un deuxième temps, nous avons aussi besoin d'être convaincus que ce que nous annonçons est la vérité, troisièmement et dernier point, nous avons besoin de trouver la bonne combinaison pour parler et de la grâce et pour parler de la vérité. Et c'est là où l'exemple à suivre, c'est celui de Jésus, parce que son message était super bien équilibré. Il ne parlait pas trop de la vérité, qui aurait pu condamner les gens. Il ne parlait pas trop de la grâce, qui aurait pu laisser voir aux gens qu'ils n'avaient pas grand-chose à se reprocher. Il parlait et de la grâce et de la vérité, et son message était bien équilibré. Écoutez ce que Jean dit au verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jean dit, « La grâce et la vérité sont indissociables, à un point tel que parler de la grâce en nous mettant de parler de la vérité, c'est mensonger, et parler de la grâce, de la vérité en nous mettant de parler de la grâce, eh bien, c'est insuffisant pour amener quiconque à passer des ténèbres à la lumière. » Permettez-moi de vous expliquer ce que je veux dire en utilisant les mathématiques. Premièrement, la grâce moins la vérité égale le libéralisme. Dans cette catégorie, nous retrouvons tous ceux qui veulent accepter la grâce, mais qui ne veulent pas entendre la vérité. Ils trouvent rapidement des excuses pour ne pas obéir à la vérité. Ils ne veulent pas confronter leur conduite avec la parole de vérité. Ils sont sous la grâce. Deuxièmement, la vérité moins la grâce égale le légalisme. Dans cette catégorie, nous retrouvons tous ceux qui jugent trop très vite le comportement des autres, mais qui sont très lents à pardonner et surtout à oublier. Troisièmement, la grâce plus la vérité égale la liberté. Dans cette catégorie, la grâce vise à vous libérer, mais seule la vérité vous libérera. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit, « Si vous obéissez fidèlement à mon enseignement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Je ne veux donc pas être plein de grâce et vide de vérité. Je ne veux pas non plus être plein de vérité et vide de grâce. Je veux être plein de grâce et de vérité. Chaque fois que je me retrouve derrière la chair, j'essaye en tout cas d'annoncer pleinement la vérité, mais je veux aussi le faire dans un esprit de grâce. D'un autre côté, chaque fois que je veux parler de la grâce, je veux le faire avec un esprit de vérité. Jésus parlait 100% de la grâce et 100% de la vérité, et ce 24 heures sur 24. Lorsque vous lisez dans les quatre évangiles ce qui est écrit à propos de Jésus, vous le voyez à chaque fois parler de la grâce et de la vérité. Il a montré qu'il était plein de grâce. Il a accueilli les pécheurs. Il a accueilli les collecteurs d'impôts. Il a accueilli les pharisiens. Il a accueilli les prostituées. Il a invité les petits-enfants à venir s'asseoir sur ses genoux. Il a touché le cœur des plus endurcis de la société. Il a guéri les aveugles. Il a guéri les boiteux. Il a guéri les lépreux. Il s'est même assuré avant de mourir qu'un criminel qui se trouve à côté de lui sur la croix reçoive la grâce d'être pardonné de tous ses péchés et d'entrer au paradis juste avant de rendre le dernier souffle. Il a montré qu'il était plein de grâce, mais il a aussi montré qu'il était plein de vérité. Il a condamné les chefs religieux de son temps et les a traités de menteurs et d'hypocrites. Il a parlé plus de l'enfer que du ciel. Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Il a dit à une ville qui aimait de tout son cœur, une ville nommée Jérusalem, qu'elle subirait le jugement de Dieu parce que ses habitants n'avaient pas cru en lui. S'il vous arrive d'être plein de vous-même, frères et sœurs, il se passera une des deux choses suivantes. Vous serez soit plein de grâce et vide de vérité, ou ce que j'ai appris au fil des années, vous serez plein de vérité et vide de grâce. Frères et sœurs, voici ce que j'ai appris au fil des années. Plus je suis plein de Jésus, plus je suis rempli de Jésus, et plus je suis rempli de grâce et de vérité. La grâce et la vérité sont les deux choses qui maintiennent nos vies et l'Église parfaitement centrée sur Jésus-Christ et qui nous permet de lui ressembler. C'est ce qui permet à la vraie Église de Jésus-Christ d'exister, de proclamer la grâce et de proclamer la vérité. Ce que Dieu veut pour son Église, c'est que premièrement, les gens qui appartiennent à son Église puissent, dans un esprit rempli de grâce, aimer suffisamment les gens qui vivent dans le monde pour leur parler de la vérité. Deuxièmement, c'est que les gens qui entrent dans l'Église puissent découvrir la grâce et la vérité. Les deux sont nécessaires au salut. Si jamais vous n'êtes pas encore convaincu par ce que Jean écrit, permettez-moi de vous dire ce que vous devriez entendre dans une Église qui annonce la grâce et la vérité. Si vous écoutez attentivement, voici ce que vous devriez entendre concernant la grâce. Vous avez péché, mais tous vos péchés peuvent être pardonnés. Vous entendrez ensuite la vérité vous dire, il y a une seule raison pour laquelle vos péchés sont pardonnés, c'est parce que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés et que vous devez recevoir comme votre Seigneur et votre Sauveur. La grâce dit, le pardon est gratuit pour vous. La vérité dit, si le pardon est gratuit pour vous, c'est parce que Jésus a accepté de payer le prix exigé par la loi pour vous. Il a payé au prix de son propre sang. Vous n'avez plus qu'à accepter qu'il ait versé ce sang pour vous si vous voulez être pardonné de vos péchés. Imaginez que la nuit dernière, vous avez rendu votre dernier souffle pendant que vous dormiez. Imaginez maintenant que vous vous réveillez, que vous vous retrouvez face à face avec le Seigneur Jésus. À ce moment-là, vous êtes automatiquement, vous réalisez que vous entrez automatiquement en présence de la grâce et de la vérité et que vous êtes maintenant dans la présence du Seigneur. La grâce va dire, tu ne mérites pas d'être ici. Et la vérité va dire, quand tu as regardé les mains de Jésus, la seule raison pour laquelle tu es ici, c'est parce que tu as cru qu'il a été crucifié pour toi et qu'il est mort pour toi. Chers amis, la gloire de Dieu est pleine de la gloire du Fils de Dieu est pleine de grâce envers nous qui étions des pécheurs. Et il ne fait pas de compromis avec la vérité de Dieu. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Quand je dis que là où on a le plus de difficultés à annoncer, à parler du péché et de l'enfer, c'est dans l'Église. On a fait une campagne il y a à peu près 2 semaines. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes, sans qu'on leur en parle, qui nous ont parlé, qui vivaient dans le péché, dans le porte-à-porte. Dieu leur a quand même donné une conscience. Il y a des gens qui vivent, on a frappé, qui vivent en concubinage et qui nous l'ont dit. Tu parles avec, tu échanges avec. Écoutez, je sais quand même que je vis dans le péché. Moi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit de condamnant parce qu'elle m'aurait claqué la porte au nez. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui nous parlent du péché. Mais qui nient l'enfer parce que ça fait partie, malheureusement, du message de beaucoup d'églises aujourd'hui. Et c'est en rencontrant les gens à l'extérieur qu'on s'aperçoit que l'appel extraordinaire que nous avons, l'appel de partager la grâce et la vérité auprès de ces gens-là, que nous sommes des privilégiés parce que nous sommes des enfants de Dieu, des héritiers du royaume, et que Dieu n'utilisera pas les gens de l'extérieur pour annoncer l'Évangile qu'ils ne connaissent pas à leur prochain, mais qu'il utilise des gens qui ont soi-disant rencontré le Seigneur Jésus, qui a changé leur vie, qui les a fait passer de la mort à la vie, c'est-à-dire à travers une nouvelle naissance, et qui leur permet, à partir de cette nouvelle naissance-là, de voir les gens non pas comme le monde les voit, mais de voir les gens comme Jésus les voit à l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Cette compassion qui nous manque, eh bien, elle commence à naître, à prendre racine dans notre cœur. Et on ne se sent pas à l'aise de ne pas proclamer ce message. Ce message de l'Évangile qui parle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Chers amis, la gloire du Fils de Dieu est pleine de grâce envers nous qui sommes des pécheurs. Il ne fait pas de compromis, je le répète, envers la vérité. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu aurait pu choisir de devenir un homme en tant que juge et exécuteur. Et nous aurions tous été trouvés coupables devant lui et condamnés à l'enfer. Mais il n'est pas devenu un homme pour nous condamner. C'est ce que l'Évangile de Jean nous dit un peu plus loin, chapitre 3. La parole, le Fils qui est Dieu, est devenu un homme afin de révéler la gloire de Dieu, qui est pleine de grâce et de vérité. La parole de Dieu est devenue un homme afin de manifester la grâce de Dieu envers vous et envers moi. Celui qui est la parole est devenu un homme, dit Jean, afin que cette grâce qui nous est destinée, eh bien, soit en accord avec la vérité de Dieu. Ce ne sera pas une grâce sur laquelle nous ne pouvons pas compter, ni une grâce qui peut nous être retirée à tout moment ou qui sera basée uniquement sur nos sentiments. Ce sera une grâce qui aura un prix élevé pour Dieu. Elle élèvera Dieu et montrera jusqu'à quel point il est juste, frères et sœurs. Elle conduira directement Jésus, et ne l'oublions pas, à être crucifié sur une croix. En fait, c'est pour cette raison qu'il est devenu un homme. Pas pour voir comment on vivait les choses, pas pour voir ce qu'on ressentait. Il a été jusqu'au bout, il a rempli sa mission. Il devait devenir un être humain pour pouvoir mourir. Il devait devenir un être humain afin de pouvoir mourir en tant que Dieu-homme à notre place. Dieu est à la fois gracieux envers nous et fidèle à lui-même, frères et sœurs. Lorsque son Fils est venu, il était plein de grâce et de vérité. Lorsque Christ est mort, Dieu est resté fidèle à lui-même car il a puni le péché dans la personne de Jésus. Et lorsque Christ est mort, Dieu a exercé sa grâce envers nous car Christ a pris sur lui le châtiment à notre place. La parole est devenue un homme, dit Jean, signifiant pour nous que la gloire de Dieu a été révélée dans l'histoire comme jamais auparavant. C'est-à-dire dans la plénitude de la grâce et dans la plénitude de la vérité puis resplendit à travers la mort de Jésus pour les pécheurs. Frères et sœurs, en terminant, vous savez pourquoi les gens ne veulent pas recevoir Jésus? On en a parlé à la conférence vendredi. Parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leur style de vie, au style de vie qu'ils vivent uniquement. Il ne faut pas chercher, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Peu importe qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, c'est qu'il ne veut pas renoncer à ce qu'il fait ci et ce qu'il fait ça. C'est uniquement pour ça. Parce qu'il n'a pas encore vu la grâce que Dieu lui accordait. Il n'a pas encore compris la vérité. Ou il a peut-être entendu la grâce, mais il ne veut pas recevoir la vérité comme étant s'adressant à lui. Frères et sœurs, quelle grâce vous avez eue de naître dans une église pour certains. Quelle grâce pour les autres nous avons eue qu'un chrétien puisse s'ouvrir la bouche pour nous parler de la grâce et de la vérité. Ce petit bout d'homme que j'ai rencontré un jour, s'il n'avait pas osé ouvrir la bouche pour me parler de la grâce et de la vérité, je serais toujours perdu dans mes péchés aujourd'hui. Et je ne sais pas si je serai encore en vie. Parce qu'à 33 ans, j'ai pris mon arme de service et ça m'a tenté de mettre fin à mes jours tellement j'étais rendu au bout. Je ne sais pas où je serais rendu à 70 ans. Je ne pense pas que j'aurais vécu jusqu'à 70 ans. Mais Dieu a eu pitié de moi. Et Dieu m'a sauvé. Dieu a placé un chrétien qui a eu le culot de me parler de l'Évangile qui avait transformé sa vie. Et Dieu cherche encore des proclamateurs de la bonne nouvelle dans cette génération qui est perdue pour ajouter le plus grand nombre possible dans son royaume. Aspirons à notre tour à être plein de grâce et de vérité envers ceux que nous rencontrons. De cette façon, nous rassemblerons au Seigneur Jésus. Amen.